Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Bien gérer son argent pour enfants » est un livre éducatif de Elsa Édition destiné aux lecteurs à partir de 7 ans. Il relève de la littérature pratique pour la jeunesse et vise une première familiarisation avec la gestion de l'argent au quotidien. Sa structure annoncée repose sur 20 histoires inspirantes, accompagnées de questions et de petits exercices. Plutôt que de présenter des règles financières sous une forme scolaire, l'ouvrage utilise des situations narratives pour rendre visibles les choix liés à l'argent. Les thèmes signalés comprennent la manière dont l'argent se gagne, les décisions de dépenses, l'épargne, la préparation de projets, la générosité et une consommation plus réfléchie. Le livre peut ainsi servir de support de lecture autonome pour les enfants déjà à l'aise, mais aussi de point de départ pour des échanges familiaux. Son objectif réaliste est moins de former de jeunes spécialistes de la finance que de donner un vocabulaire et des repères concrets pour comprendre les premiers arbitrages financiers. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, 20 récits courts pour rendre les choix financiers observables. Le recours à 20 histoires courtes constitue le principal dispositif pédagogique du livre. Pour un enfant, des notions telles que budget, priorité ou renoncement restent difficiles si elles ne sont présentées que comme des définitions. Une histoire permet au contraire de situer un choix dans un contexte identifiable, avec une intention, une difficulté et des conséquences. L'enfant peut alors examiner ce qui distingue une envie immédiate, un besoin plus important ou un objectif préparé à l'avance. Cette méthode ne suppose pas que toute situation possède une réponse unique. Elle invite plutôt à comprendre que gérer de l'argent consiste à faire des arbitrages avec des ressources limitées. Le format bref convient aussi à l'attention des lecteurs visés et facilite une lecture par étapes. Une famille peut lire un récit, discuter de la décision présentée, puis reprendre le livre plus tard sans perdre le fil. Les histoires colorées signalées dans la présentation renforcent cette accessibilité, sans remplacer le travail de réflexion. Le livre semble ainsi privilégier une découverte progressive de notions financières élémentaires. Son intérêt tient à la traduction de principes abstraits en situations proches des premières expériences enfantines, comme recevoir de l'argent, choisir un achat ou préparer un projet. Deuxièmement, questions et exercices pour passer de la lecture à la décision. Chaque histoire est suivie de questions et d'exercices pratiques, ce qui distingue l'ouvrage d'un simple recueil de récits à thème. Cette organisation cherche à vérifier la compréhension, puis à relier le contenu à une expérience réelle. Les questions peuvent amener l'enfant à identifier la décision centrale, à comparer des options ou à expliquer ce qui lui semble préférable. Les exercices prolongent cette réflexion par une application simple. Par exemple, réfléchir à un objectif, à une dépense ou à la répartition d'une somme disponible. Cette étape est importante car connaître les mots épargne ou budget ne garantit pas de savoir les utiliser. L'enfant doit aussi apprendre à prévoir, à attendre et à mesurer les effets de ses choix. Le rôle de l'adulte peut être utile pour reformuler une consigne, éviter que la discussion devienne moralisatrice et faire le lien avec des exemples adaptés au foyer. Le livre ne remplace donc pas une pratique concrète, telle que la gestion encadrée d'un petit montant, mais il fournit une trame pour cette pratique. Son dispositif favorise une pédagogie active où la réponse personnelle compte autant que la restitution de la leçon. Il transforme ainsi la lecture en occasion de dialogue et de mise à l'épreuve de repères financiers. Troisièmement, épargne et planification comme apprentissage du temps long. L'épargne et la planification figurent parmi les thèmes explicitement associés au livre. Présentée à hauteur d'enfant, elle ne renvoie pas d'abord à des produits financiers complexes, mais à la capacité de réserver une partie de son argent pour un projet futur. Cette idée introduit un rapport au temps souvent absent de la dépense impulsive. Choisir de ne pas utiliser immédiatement une somme implique de clarifier un objectif, d'estimer ce qui est nécessaire et d'accepter une attente. Le livre peut ainsi aider à comprendre que l'épargne n'est pas seulement une privation, mais un moyen d'accroître sa liberté de choix plus tard. La planification complète cette notion en incitant à découper un projet en étapes raisonnables. Un enfant découvre que l'argent disponible ne suffit pas toujours à tout obtenir en même temps et que les priorités doivent être ordonnées. Cette approche met aussi en valeur la patience et la responsabilité, sans promettre que la seule volonté résout toutes les contraintes matérielles. Dans un cadre familial, ces thèmes peuvent nourrir des activités concrètes, comme visualiser une progression vers un objectif ou discuter du délai acceptable avant un achat. Le livre offre surtout un langage simple pour associer désir, préparation et décision. Quatrièmement, comprendre la valeur de l'effort avant de parler de dépenses. La présentation du livre met en avant la responsabilité et la valeur de l'effort, ainsi que la compréhension de la manière dont l'argent se gagne, se dépense et se partage. Cet angle est utile car il évite de réduire l'éducation financière à une liste de techniques de restriction. Comprendre que l'argent correspond à des ressources limitées et dans de nombreux cas à du temps ou à un travail aide l'enfant à donner un sens au choix de consommation. Il ne s'agit pas de faire porter à un jeune lecteur les préoccupations financières des adultes, mais de lui faire percevoir qu'un achat a un coût et qu'une décision engage une possibilité qui ne sera pas choisie. Cette compréhension prépare des conversations plus nuancées sur le prix, la comparaison et la reconnaissance de ce qui est déjà disponible. Elle peut également limiter une vision magique de l'argent dans laquelle toute envie devrait être satisfaite immédiatement. Le traitement annoncé comme simple et optimiste est pertinent pour ce public, à condition de conserver une distinction claire entre apprentissage et culpabilisation. Le livre semble viser cette posture en passant par des histoires et non par des injonctions. Il peut contribuer à faire de la responsabilité financière une compétence de discernement plutôt qu'un discours de privation. En dernier lieu, générosité et consommation responsable dans une vision élargie de l'argent, le livre associe la gestion de l'argent à la générosité et à la consommation responsable. Cette combinaison élargit le sujet au-delà de la seule accumulation personnelle. L'enfant est invité à comprendre que décider de l'usage de son argent peut concerner ses propres projets, mais aussi son rapport aux autres et aux objets qu'il choisit d'acquérir. La générosité introduit la possibilité de partager ou de contribuer, tout en laissant ouverte la discussion sur les moyens réels de chacun. Elle ne devrait pas être présentée comme une obligation qui annule les besoins personnels, mais comme une dimension possible de la décision. La consommation responsable, quant à elle, encourage une pause avant l'achat. Elle conduit à examiner l'utilité d'un objet, son caractère durable ou la différence entre désir passager et besoin. Pour des lecteurs de 7 à 12 ans, le bénéfice principal est de développer l'habitude de poser des questions avant de dépenser. Cette démarche est plus solide que la mémorisation de règles isolées, car elle peut s'appliquer à des situations variées. En réunissant dépenses, épargne et partage, l'ouvrage propose une conception relationnelle de l'argent. Celui-ci devient un outil de choix et non une fin en soi. Les échanges avec un parent peuvent rendre cette dimension particulièrement concrète. En conclusion, bien gérer son argent pour enfants convient surtout aux enfants de 7 à 12 ans qui commencent à recevoir ou à manipuler de petites sommes, ainsi qu'aux parents, proches ou éducateurs, souhaitant aborder l'argent sans transformer le sujet en cours technique. Il peut être particulièrement utile lorsque les adultes cherchent un support pour discuter de l'argent de poche, d'un achat désiré, d'un objectif à préparer ou de la différence entre dépenser et mettre de côté. Le bénéfice pratique attendu réside dans la création de repères simples, reconnaître une priorité, accepter un délai, préparer un projet et considérer les effets des décisions. Sur le plan intellectuel, le livre aide à comprendre que l'argent renvoie à des choix et à des valeurs, notamment l'effort, la responsabilité, le partage et une consommation réfléchie. Sa position dans cette catégorie tient à son format hybride. Là où certains ouvrages jeunesse se limitent à expliquer des termes financiers ou à donner des conseils directs, celui-ci s'appuie sur 20 récits, puis propose questions et exercices. Cette progression relie identification narrative, discussion et application. Elle est adaptée à un apprentissage familial progressif, sans prétendre remplacer une expérience réelle de gestion. Pour tirer le meilleur parti de l'ouvrage, un adulte peut prolonger les lectures par de petits exemples du quotidien, adaptés aux possibilités et aux règles du foyer. Le livre se distingue donc par la place accordée à la réflexion active et au dialogue autour des premières décisions financières. Si vous souhaitez soutenir Elsa Édition, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.